bonjour.
Bonjour.
Et ce matin, vous venez avec une proposition assez étonnante. Et si on arrêtait de débattre?
Oui, Amélie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus sur nos réseaux sociaux, bien, se remplissent de vidéos courtes montrant des petits extraits de débats télévisés, accompagnés souvent d'un commentaire du genre « un tel désinque tel autre » ou encore « un tel détruit en direct ». Et les petits extraits en question ne parlent souvent pas tellement du fond du débat. Hein. Ils ne retiennent que les coups portés, l'humiliation, avec si possible un zoom, vous savez, sur la mimique embarrassante de l'interlocuteur battu ou sur le petit rictus de celui qui justement assène le coup fatal. Et le plus troublant, je trouve, et je dois l'avouer dans ces extraits, c'est le plaisir qu'on y prend, le plaisir de voir en fait notre camp triompher.
C'est vrai.
Et ce qui en ressort, c'est justement cette dynamique des camps. On ne partage pas en fait l'extrait pour faire avancer le débat, on le partage d'abord pour marquer un point contre ceux d'en face qui, d'ailleurs, à coup sûr, feront la même chose avec un autre extrait du débat, mais mettant en valeur leur représentant. Et on se demande là-dedans où est la réflexion et la pensée. Guy Debord, en 1967, dans son livre « La société du spectacle », annonçait exactement cela, le moment où le spectacle remplace intégralement la réalité. Le débat télévisé, en quelque sorte, c'est du spectacle qui se fait passer pour de la politique. Ça ressemble à de la politique, mais en fait, c'est un show d'acteurs, des acteurs qui ne sortent jamais de leur rôle. Ce n'est pas vraiment une discussion, c'est une mise en scène avec des rôles, des points, des gagnants et des perdants.
Mais alors, c'est étonnant parce que la culture du débat, elle a toujours été centrale en philosophie, non?
Oui, c'est vrai qu'on attribue souvent aux Grecs cette passion du débat, mais en fait, ils pratiquaient quelque chose qui est radicalement différent de ceci. Quand Socrate discutait sur l'agora, il ne débattait pas, figurez-vous. Il ne défendait aucune thèse. Il posait des questions. Il cherchait, avec son interlocuteur, quelque chose qu'aucun des deux ne possédait au départ. C'est ce qu'on appelle la maïeutique. La maïeutique, on traduit ça par l'art d'accoucher les esprits. Et dans la notion d'accouchement, par définition, il y a l'idée de l'arrivée de quelque chose de neuf. Or, le débat tel qu'on le pratique aujourd'hui, il ne produit rien de neuf. Qu'est-ce qu'il fait? Il redistribue ce qui existait déjà avant le débat. Et dans ce show, l'opinion, ce n'est plus le fruit du débat, c'est le point de départ. Si bien qu'absolument personne dans ces débats n'évolue ou ne change d'avis, ni ceux qui participent, ni ceux qui écoutent. L'opinion de chacun est en fait un préalable au débat et elle est fixée d'avance.
Donc si je comprends bien, vous nous dites que l'opinion empêche la pensée.
Tout à fait. Hannah Arendt, une autre philosophe, faisait une distinction lumineuse justement entre, d'une part, penser et d'autre part, avoir des opinions. C'est pas la même chose. Penser, disait-elle, c'est un mouvement, c'est une espèce de dialogue intérieur, mais qui ne se fixe jamais tout à fait. Elle voit la pensée comme, vous savez, une tête chercheuse, mais qui ne trouve jamais vraiment sa cible. Alors que l'opinion, c'est tout l'inverse. C'est une pensée qui s'est arrêtée, une pensée qui a pris la pause. Et je dois dire, nous vivons dans un monde justement qui récompense la pause. On pourrait dire que normalement, une vraie culture du débat ferait évoluer les opinions de chacun. Or aujourd'hui, on a l'impression que l'opinion est justement ce que la discussion ne fait jamais changer.
Mais donc, Mathieu, est-ce qu'on devrait s'empêcher d'avoir des opinions?
Eh bien, peut-être que oui. Du moins parfois. Les Grecs anciens avaient un mot magnifique pour désigner l'inverse de l'opinion, et ce mot, c'est l'époché. J'espère que je le prononce bien. Qu'on peut traduire par la suspension du jugement. Ça nous vient d'un monsieur qui s'appelle Pyrrhon d'Élis, trois siècles avant notre ère, et qui avait fait de l'époché, justement, un art de vivre. Suspendre son jugement. Attention, suspendre son jugement, ce n'est pas s'en foutre, ce n'est pas de l'indifférence, mais c'est pour lui justement plutôt une forme d'attention plus intense, plus ouverte au réel. Une attention qui n'est pas encore déformée par ce besoin de conclure. Et cette absence de conclusion prédéterminée est justement ce qu'il manque à nos débats. Au moins, le temps de l'exercice, il nous faudrait peut-être s'efforcer d'oublier, vous savez, le rôle et l'étiquette que nos opinions nous assignent. Ainsi, vous l'avez compris, si je veux être cohérent, je vais bien me garder de conclure cette chronique par un avis tranché,
ou
par une opinion définitive, mais plutôt peut-être par une invitation à justement l'humilité de la pensée, celle-là même qui permettra de retrouver ce qu'on a perdu, c'est-à-dire du mouvement dans notre pensée.
L'humilité.